Alors, je crois me rappeler la semaine dernière, en tant qu'image, je ne reviendrai pas sur le message qui nous a été donné, mais en tant qu'image, nous avions entendu parler de football, de l'un de ces fameux sports collectifs qui drainent les foules, qui rassemblent beaucoup de monde. Or, moi, je ne comprends pas grand-chose, j'avoue. Mais le football peut être synonyme au jour où notre pays, notre équipe favorite est victorieuse. Nous nous sentons très souvent dans l'allégresse. Tout va pour le mieux. Et nous pouvons même vivre une semaine, peut-être même des mois, si nous avons été champions du monde, voire peut-être même 4 années, dans une pleine joie. Bon, ce serait un peu exagéré, à moins que le foot ait vraiment cette possibilité-là. Mais quand la défaite vient, là, très souvent, c'est assez intéressant de voir les supporters de foot, les fans de football, on peut même mettre tous les autres sports collectifs, de voir la détresse qui peut se lire sur leur visage, de voir même le découragement que cela peut amener, même au lendemain, quand on retourne dans son travail. Oups, pardon. Il est net ici, quand nous vivons en tant que groupe, en tant que peut-être même nation ou en tant que peuple, parfois, si nous sommes animés d'une énergie, nous nous mettons en avant, nous marchons ensemble. Mais au jour où le découragement arrive pour une quelconque raison, là, tout d'un coup, l'avenir n'existe plus vraiment aussi. Et ce matin, je veux m'arrêter avec vous sur un texte connu, un texte un peu étrange. Et hier, j'ai eu l'occasion de le partager, mais sous un autre regard, avec quelques-unes de mes sœurs. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Ézéchiel et au chapitre 37. Il est question là aussi d'un peuple. Et bien entendu, comme nous nous plongeons dans l'Ancien Testament, il va s'agir du peuple d'Israël. Donc Ézéchiel 37, à partir du premier verset, et nous nous arrêterons même au verset 10. Donc Ézéchiel 37, les versets 1 à 10. Disons ensemble. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda: Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis: Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit: Prophétise sur ces ossements-là, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc, comme j'en avais reçu l'ordre, et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit: Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit, prophétise et dis à l'esprit: Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisai donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Nous arrêtons là notre lecture. Il s'agit ici donc d'un récit qui s'intéresse à une vallée, et à une vallée toute particulière. Une vallée qui nous est dépeinte, dès le début de ce récit, d'une manière très très étonnante. Une vallée jonchée d'ossements. D'ossements humains. D'ossements même desséchés. Une vision effroyable, celle de l'anéantissement d'une foule, d'une armée, celle de la fin de toute espérance, celle de vie brisée. Ézéchiel nous fait état d'une vision qu'il a reçue, une vision très étrange, et il est habitué des visions étranges. Mais plus que cela, le récit qu'il nous livre là semble terrifiant au premier abord. En tant que prophète de l'Éternel, cette vision lui a été communiquée afin qu'il en délivre le sens au peuple. Mais revenons un petit peu à cette vision en elle-même. Que dit-elle au juste ? Elle est avant toute chose un message adressé au peuple d'Israël, à ce peuple qui venait d'être terrassé. En effet, Jérusalem, peu de temps avant, était tombée. Le temple avait été détruit. Et surtout, la désolation avait pris place dans les cœurs des survivants, suite à l'invasion de cet empire bien plus puissant qu'eux, Babylone, qui les avait déportés. Et Ézéchiel, là, à ce moment-là, en songe, il reçoit cette vision, il reçoit pour ses contemporains cette vision étrange de la part de Dieu, une vision lugubre qui évoque cette réalité du peuple d'Israël, celle de ce désespoir profond de la descendance d'Abraham, qui vit un drame. Cette vallée n'a rien de réjouissante. Ce ne serait pas un très haut lieu touristique, hein. Ça ne ferait pas fureur. Tous ces eaux en font vraiment un lieu terrifiant, effroyable, un lieu que l'on ne voudrait même pas contempler. Et pourtant, le prophète y est emmené. Il n'y a pas été voulant visiter cela, même si ça n'est qu'en songe, et transporté dans sa vision par Dieu lui-même. Remarquez encore une chose. Dans cette vallée, il y avait avant toute chose ces eaux. Ce peuple pris de découragement et plus encore. Il y a ce prophète qui a été emmené, pas par choix. Mais qui est présent dans cette vallée ? Avant Ézéchiel. Qui est déjà présent dans cette vallée ? S'arrêter sur ce prophète, sur ses eaux, pour dire voilà, ce sont eux qui sont présents là, dans cette vallée, ne suffirait pas à décrire la scène. Il nous manque quelqu'un, il nous manque le personnage principal, le premier rôle même. Celui sans qui la scène qui nous est racontée n'aurait même plus aucun sens. Car dans cette vallée où règne la désolation, il y a Dieu. Tout à l'heure, il a été question dans un chant qu'il était, alors c'était en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Alors, je ne vais pas vous faire la danse, hein, je ne suis pas très doué pour ça. Mais dans cette vallée, il y a Dieu. Dieu est présent. Et là, où l'absence de vie pèse lourdement aux yeux du prophète, il y a Dieu qui se manifeste par sa parole et qui s'adresse à lui. Là où est présent le découragement, l'absence d'espoir, le désarroi, la perte de repères, la résignation, le fatalisme au sein du peuple de Dieu, au sein de son Église. Et là, je transpose au sein même de nos églises locales, Dieu est présent. Là où l'étincelle de vie s'en est allée, Dieu reste fidèle. À l'image de ce peuple en exil, un exil forcé, un exil subi. Nos églises aussi peuvent traverser des temps de sécheresse, où nous nous voyons un petit peu à l'image de cette vallée d'eau desséchée. Des moments où le découragement prend le dessus. Et dans des cas comme ça, notre premier réflexe est très souvent de vouloir résister à cela, à lutter contre le découragement, à ne pas laisser le désespoir s'installer parmi nous. Mais ce serait là oublier cette question adressée au prophète Ézéchiel. Crois-tu que ces ossements revivront ? La question est d'importance, elle est même légitime. Elle est la question que les exilés en Babylonie s'opposent depuis leur déportation. Avons-nous un avenir aujourd'hui alors que nous avons été arrachés à notre terre, des faits, que nous avons perdu tant de proches dans cette guerre ? Et que fait Ézéchiel devant ce questionnement qui s'adresse à tout un peuple ? Que fait-il ? Que comprend-il ? Regardez à sa réponse. Il s'abandonne à Dieu. Il exprime avec foi l'impossibilité humaine à trouver la vie en nous-mêmes. Il affirme que rien n'est possible aux hommes et aux femmes d'Israël sans l'aide du Dieu Très-Haut. Ainsi, quand la sécheresse enlève toute vigueur et accroît même le découragement au sein du peuple de Dieu, de son Église, il ne nous sert à rien, absolument à rien, d'échafauder des plans, à peut-être même inciter les frères et les sœurs à se bouger, à vouloir même nous mettre en route selon nos propres raisonnements. Car si nous nous coupons de la source de vie unique pour notre foi, alors tous nos projets ne peuvent conduire que dans une seule et unique direction, la vanité. Tout ce que nous en prendrons sera vain, nous épuisera, nous découragera même davantage. Il y aura peut-être un sursaut d'énergie, mais au bout du compte, on va retomber quelque part. Et je reviens à nouveau à la réponse d'Ézéchiel. La réponse d'Ézéchiel est édifiante, car il ne cède pas au désespoir. Il ne cède pas au désespoir ambiant, à l'image de cette vallée qui est face à lui. Pour autant, il ne tombe pas dans la réaction totalement opposée, d'un positivisme un peu naïf, d'une espèce de bisounours attitude. On a juste qu'à taper là et puis hop, des rayons de lumière qui sortent de partout. Bon. Pour ceux qui connaissent le dessin animé ou les peluches, vous verrez mieux que moi. À cette question qui lui est posée, notez qu'il ne répond ni oui, ni non. Et là, ce n'est pas un jeu chez lui. C'est très sincère. Mais il affirme sa foi en Dieu et accepte qu'il lui faut, à lui, comme au peuple, vivre une résurrection. À ce peuple et son prophète qui sont rongés par le désespoir, l'Éternel offre à son prophète une vision, celle de la promesse d'une résurrection. Dieu fait à Ézéchiel la promesse d'insuffler la vie, de redonner l'espoir à son peuple qui ne voit plus d'avenir devant lui. Mais alors, pour que résurrection ait lieu, il faut une chose avant tout. Quoi donc ? Si Dieu doit redonner vie quand il n'y a plus d'espoir, que nous faut-il accepter ? Tout simplement, mourir. Certes, vous me direz, ce peuple, dans ces circonstances-là, est déjà comme à demi-mort. Oui, d'une certaine manière, mais il ne s'agit pas de cette mort-là. Le peuple ainsi que son prophète doivent mourir, mais à leur propre désir, à leur propre rêve, celle de cette Jérusalem qui n'existe plus aujourd'hui. Ils doivent renoncer aussi à leur propre projet. Alors, ils n'avaient pas la capacité, je pense, de se soulever, de se rebeller et puis de filer après dans leur pays. Je pense qu'ils étaient plus sages que les Français qui, à chaque fois, croient qu'ils peuvent refaire les choses. Mais ils doivent mourir à leur désir, afin de laisser toute la place à l'action de Dieu au sein même de son peuple. Et je le crois, comme Ézéchiel l'a reçu pour son temps, pour ce peuple-là, que cette parole peut s'adresser encore à nous aujourd'hui. Car nos églises ont parfois besoin de vivre cette mort symbolique, de renoncer à leurs propres désirs et projets pour que la parole de Dieu puisse agir en elles, pour qu'elle puisse transformer à nouveau son peuple, lui redonner une vitalité qui s'était peut-être étiolée ou perdue. Dans cette vallée où il n'y avait plus l'once d'une étincelle de vie, je le redis, mais Dieu était là. Il précédait même son prophète. Et dans nos communautés, dans nos églises, qui, parfois au cours de leur existence, cèdent aussi au découragement, où l'on entend, où l'on attend, parfois l'action de Dieu, de voir Dieu se manifester avec nos rêves, on en oublie qu'il est déjà présent au milieu de nous. Il nous précède. Ce matin même, il nous avait déjà précédés. Il était déjà heureux avant nous. Et c'est lui qui nous a accueillis. Parfois, quand nous sommes dans ce découragement, nous lui demandons d'agir, de manifester sa puissance. Mais là aussi, peut-être, on en oublie de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nos désirs, à nos desseins, à nos solutions toutes faites. C'est par là qu'il faut aller, je le sais. À l'image de ce peuple hébreu vivant à Babylone, nous pouvons aussi, en tant qu'Église, sombrer dans le marasme, ou alors traverser une crise et nous laisser gagner par un fatalisme. Renoncer à toute chose, même peut-être pour fuir l'Église, car ça ne va plus. Mais comme Dieu l'a fait avec son peuple, Dieu éprouve aussi son Église. Et il l'a déjà fait maintes fois avec son peuple. Relire l'Ancien Testament nous montre à quel point Dieu à chaque fois a éprouvé son peuple pour l'inviter à mourir à ses propres désirs, à revenir à lui. Que ce soit d'ailleurs dans le désert ou dans la déportation du royaume du Nord qui avait été en Assyrie, et puis du royaume de Juda qui eux ont été à Babylone. Les épreuves ont été nombreuses pour ce peuple. Et si l'une des tentations face à ces épreuves que vivent sous différentes formes nos communautés est celle du découragement, une autre tentation, tout aussi grande, serait son opposé. Et très souvent, nous fonctionnons soit d'un extrême à l'autre. Mais là où nous devrions être n'est pas toujours évident. Et cet opposé, cette autre tentation, est celle qui consisterait à vouloir tout changer, tout réorganiser immédiatement. Et c'est là une grande tentation, notamment chez beaucoup de pasteurs. Nous sommes les premiers tentés dans ce genre de situation, je crois. Gare à nous. Et notamment lorsque un jeune pasteur ou un pasteur arrive dans une nouvelle église, ce peut être là une grande tentation. Ce peut être aussi la tentation d'une partie de la communauté de vouloir profiter de l'avenue d'un nouveau berger pour réformer tel ou tel organisme de l'église qui nous déplaît. Allez, prenons le comité chargé de l'évangélisation. On va faire quelque chose de nouveau là. Prenons la chorale. Elle n'est plus du tout au goût de ce que moi j'estime être une vraie chorale. Eh bien, c'est simple, on change tout. Et prenons encore, quel autre organisme? Prenons le conseil, tiens. Il est épuisé, il manque de ressources, il est totalement découragé. Allez-y. On en recrée un nouveau avec du sang neuf, exclusivement. Quelle grande tentation. Très grande tentation. Mais revenons encore à la parole. Revenons à la vision que reçoit Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce que nous recevons en lisant cette parole? Nous voyons que Ézéchiel, lui-même, nous invite là à prendre garde face à ces tentations des deux côtés. Dieu va agir. Dieu agit même. Dieu remobilise son peuple. Mais comment fait-il? Comment s'y prend-il? Et regardez bien un peu la manière dont Dieu s'y prend. C'est raconté d'une manière qui ferait presque penser à un film de zombies. Excusez-moi pour le parallèle, il n'est peut-être pas très adroit. Je pense que vous ne regardez rarement à ce genre de choses. Ce n'est pas toujours très édifiant, c'est sûr. Mais c'est très à la mode. Je crois qu'il y a même des BD, des séries télé qui existent là-dessus. J'en ai eu quelques échos. Mais que fait Dieu avec son peuple? Ce peuple complètement découragé. Eh bien, il va composer avec eux. Il va composer avec les personnes présentes. Il va faire avec ses ossements desséchés. Jamais il ne les rejette. Car lui demeure fidèle à son peuple. Le seul qui a été infidèle, ça a toujours été le peuple. Ce peuple découragé, ce peuple sans avenir et espoir, qui est là à l'image de cette vallée, Dieu va les utiliser. À partir d'eux, il va rebâtir l'espoir pour ce peuple. Dieu fait toujours ainsi. Dieu veut agir à partir d'eux. Non pas avec quelques-uns, il aurait pu prendre, alors cet os-là il me plaît bien, celui-ci m'a l'air bien costaud, et celui-ci a bonne mine, allez, on fait avec celui-là, puis le reste, pchit, non. Il le fait avec tout son peuple, avec toute son église. En effet, nos églises sont à l'image de ce peuple d'Israël. Dieu demeure présent en son sein, jamais il ne nous abandonne. Mais plus encore, là où parfois nos églises ne peuvent plus, elles aussi, regarder vers l'avenir, restent enfermées dans leur passé, ou peut-être souffrent de certaines scléroses, notre Seigneur va prendre l'existant. Il va composer avec chacun des frères et sœurs dans nos communautés. Dieu n'est pas comme nous, il a une très bonne mémoire. Dieu ne nie pas le passé. Il ne rejette pas ses enfants car il les connaît. Et comme pour Israël, dont il connaissait la fidélité passée, notre Père n'oublie pas le passé de nos églises, qui ont témoigné elles aussi de leur amour et de leur fidélité à son Fils Jésus. Dieu œuvre au cœur de nos églises et il les renouvelle avec patience. Il prépare de nouvelles choses pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. En effet, si nous sommes appelés à mourir à nos propres désirs et projets, rêves, en tant que peuple, pas en tant qu'individu, bien que ça ne soit pas aussi à mettre de côté, mais ici en tant que peuple, l'accent est sur le peuple. Nous sommes appelés à chercher les signes de l'œuvre divine parmi nous. et autour de nous, tant dans le passé, car avoir mémoire de ce que Dieu a fait est important, mais aussi dans le présent. Et cela peut être à l'image de ce premier bruit, de ce mouvement presque imperceptible de ces ossements qui se rapprochèrent les uns des autres. C'est très étonnant de voir comment c'est raconté. Tout simplement, nous sommes appelés à discerner, à être attentifs à ces signes de l'œuvre divine qui redonnait vie à son peuple. Ces signes qui témoignent de l'action de Dieu au beau milieu de nos églises sont très souvent imperceptibles, modestes, simples. Là où parfois nous attendons presque que le tonnerre nous tombe dessus, parfois il nous suffit juste de regarder peut-être à un frère, une sœur, à une parole, car Dieu déjà est en train d'agir. Ils sont les signes de l'action de l'Esprit-Saint parmi nous, de ce souffle qui revitalise les différents membres du corps les uns après les autres. Et quand les signes sont là, quand nous avons l'humilité et la sagesse pour les discerner, alors Dieu agit plus encore. Il agit même avec puissance, car rien ne lui est impossible. Ce texte, cette vision de la résurrection si particulière que nous offre l'Éternel, qu'il offre à Ézéchiel, témoigne de la puissance créatrice de Dieu, de sa capacité à agir là où on ne peut même pas l'imaginer. Je crois qu'Ézéchiel a été très surpris de cette vision. C'en est même certain. Il suffit de voir comment il la raconte. Il le fait avec main de détail, parce qu'elle l'a interpellé. Mais pour lui laisser la place, pour lui faire place, le laisser agir par l'œuvre de son esprit parmi nous, n'oublions pas qu'il nous faut apprendre à renoncer à nous-mêmes, à nous abandonner à lui, que ce soit bien sûr individuellement, mais plus encore communautairement. Il nous faut accepter de le laisser nous transformer en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Oui, car une Église vivifiée par l'Esprit est une Église où tous sont relevés, où tous se tiennent debout, comme ce qui nous est dit là aussi dans cette vallée, où tous sont remplis de l'Esprit et surtout prêts à marcher d'un même pas, à l'image d'une armée. Non pas que nous ayons à sortir après et à guerroyer dans les rues, quoique, on peut garder l'image. Mais une Église vivifiée par l'Esprit est une famille habitée par Dieu, par l'Esprit de Dieu, où le Créateur est au cœur de son peuple par l'annonce de cette parole de grâce, par l'annonce de cette parole d'espérance en Jésus-Christ, qui est le ressuscité. Et là, vous pouvez mettre le L et le R majuscule, voire tout en majuscule si vous préférez, comme on le fait parfois dans nos mails, ça fait un peu mal aux yeux. Une Église dont le cœur bat au rythme du Seigneur, rassurez-vous, n'a point besoin d'être gigantesque, ou même grande, ou même d'être équipé des derniers cris et des derniers standards de la technologie, ni encore d'héberger en son sein des virtuoses en tout genre, dans tous les domaines et dans tous les ministères qui soient, non. Ce serait là encore compter sur nos propres forces. Nous, en tant que communauté, elle doit juste savoir renoncer à elle-même et être à l'écoute de l'Esprit pour se mettre en route. Pour se mettre en route sans forcer l'allure, Car vouloir aller plus vite, c'est parfois encore reprendre l'initiative et ne pas laisser Dieu agir. Et de le faire à l'allure de Dieu aussi pour que chacun, pour que tous trouvent sa place dans cette marche, ensemble. Mes amis, mes frères, mes sœurs, Dieu est grand. Dieu est fidèle. Il est toujours là avant nous. N'ayons crainte. Là où nous poussons en être dans nos propres églises, je parle pour Anthony, mais je parle aussi pour mes frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, n'ayons crainte de renoncer à nos projets, à savoir discerner ce qui est vraiment mon envie et ce que fait Dieu, pour que nous puissions écouter son esprit qui souffle déjà sur nous, afin de nous mettre en marche pour son triomphe, un peu comme après cette victoire en 98 de l'équipe de France, où là, c'est tout Paris qui avait été envahi. C'est un peu étonnant. N'ayons crainte vraiment de renoncer à nous-mêmes pour mieux écouter l'Esprit de Dieu qui agit au milieu de nous. Prenons un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car tu nous assures que tu es toujours fidèle, présent au milieu de nous. Que même quand le découragement nous empare, s'empare de nous et nous met plus bas que terre, où nous ne voyons plus d'avenir pour ton Église, pour ton peuple, toi, tu ne t'es jamais désolidarisé, tu es toujours là, tu es prêt à souffler sur ton Église pour lui redonner vie. Seigneur, merci pour ta fidélité. Donne-nous surtout la sagesse, le discernement de pouvoir être à ton écoute, de pouvoir savoir regarder à ce qui vient de nous et ce qui vient de toi, pour laisser encore plus de place à tes projets. Pour que cette Église, pour que nos Églises qui sont tiennes, qui est ton peuple, puissent avancer avec toi, rayonner, témoigner, te glorifier, par ce qu'elle pourra faire encore demain, et qu'elle n'est jamais à cœur, mais qu'elle est toujours à cœur de se renouveler et de regarder à toi et seulement à toi. Seigneur, aide-nous. Nous en avons tous besoin. Amen.